20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est dans un parking, le parking du Centre Pompidou, que l'Opéra Comique se délocalise ce week-end pour faire sa rentrée, dans le cadre d'une production tout à fait originale, déroutante même, dont nous parlerons ce soir en compagnie de Jean-Yves Laroutureau, le président du conseil d'administration de l'Opéra Comique, avec qui nous évoquerons également les temps forts de cette nouvelle année de la salle Favart. Et puis comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra pour une petite escapade hors de nos frontières. Et cette semaine, c'est à Bonn que nous ferons étape, ville natale de Beethoven. Mais avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. La finale du concours Voix des Outre-mer, que l'on évoquait mardi avec Thierry Ilerito, s'est donc tenue hier soir à l'auditorium de l'Opéra Bastille. Le prix des Voix des Outre-mer a été attribué au baryton réunionnais Aslam Safla, âgé de 28 ans. Le prix Jeune Talent à la soprano également réunionnaise Candice Albardier, de tout juste 20 ans. Le coup de cœur du jury est allé à la toute jeune soprano guadeloupéenne Louane Pommier et la mention du jury à la réunionnaise Aurélie Sudul. Le Festival de Salzbourg vient d'annoncer les noms des deux chefs qui remplaceront cet été Maris Janssons suite à la disparition du chef letton en décembre dernier. C'est ainsi Franz Welser-Möst qui dirigera les concerts d'ouverture de l'Orchestre Philharmonique de Vienne les 26 et 29 juillet, tandis que Tugan Sokiev assurera lui la direction de Boris Godounov dans la mise en scène de Christoph Loy au mois d'août. Et il fera à cette occasion ses débuts au festival. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Tous les amoureux du grand baryton Ludovic Tézier, et ils sont nombreux, ont de quoi se réjouir puisque l'on vient d'apprendre qu'il enregistre en ce moment son tout premier album, un programme entièrement dédié à Verdi, réunissant quelques airs avec lequel le chanteur a brillé sur scène, nous a véritablement étourdi ces dernières années. Pour l'accompagner, Frédéric Chasselin et l'orchestre de Bologne. Alors on ne connaît pas encore la date de publication, il faudra attendre quelques moi, avec en tout cas une grande impatience. L'Orchestre National d'Île-de-France fait sa rentrée cette semaine avec son nouveau directeur musical, le chef américain Case Scallion. Une tournée qui débutera demain à la Philharmonie de Paris et passera ensuite par Fontainebleau, Gonesse, Franconville, Plaisir, Antony, Nogent-sur-Marne et Villeparisis, et cela jusqu'au 19 janvier. Au programme Beethoven, le 4e concerto pour piano avec Federico Colli en soliste et la 4e symphonie, et avec en ouverture de programme une page de Charles Ives.
Laure Maison sur Radio Classique.
Le violoncelliste Gauthier Capuçon et la pianiste Yuja Wang ont été parmi les musiciens les plus actifs en 2019, comme l'a révélé tout récemment une étude du site Backtrack. Et ils devraient l'être encore en 2020. Ils viennent justement d'entamer leur grande tournée internationale et feront ainsi quelques étapes en France. Ils seront ainsi demain à Lyon, salle Molière, samedi à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence, et puis le 20 janvier à Paris, à la Philharmonie, avec dans leur bagage Chopin et César Franck, à savoir le programme de leur tout récent album sorti chez Warner.
Thank you.
Quelques notes du final de la sonate de Franck dans sa version violoncelle-piano avec Gauthier Capuçon et Yujia Wang. Ils seront, je vous le rappelle, demain à Lyon, samedi à Aix-en-Provence et le 20 janvier à la Philharmonie de Paris.
Le journal du classique sur Radio Classique.
C'est avec un spectacle tout à fait original qui se tiendra ce week-end dans un lieu atypique que l'Opéra Comique inaugure cette année 2020. Une année qui s'annonce riche, contrastée, audacieuse même, que nous évoquerons ce soir avec Jean-Yves Larouturou, le président du conseil d'administration de l'Opéra Comique. Mais avant de nous éclairer sur les temps forts de 2020, il revient pour nous ce soir sur l'année 2019 qui aura été marquée par de très grands succès salle Favart.
Très belle année 2019, effectivement. Je crois que toutes les équipes, Olivier Mantey et toutes ces équipes peuvent être contents. Le public nous a suivis, les mécènes nous ont suivis, les coproducteurs à travers le monde viennent et reviennent, y compris sur le nouveau spectacle, et puis de très belles productions, saluées par le public bien sûr, mais aussi par la critique. On a couvert en 2019 cinq siècles d'opéra, du XVIIe siècle avec l'Hercule amoureux qui n'avait pas été donné depuis les noces de Louis XIV, jusqu'à une création qui va être représentée, je ne vais pas annoncer des saisons ailleurs, mais dans de grandes maisons d'opéra, parce qu'elle a convaincu, c'est l'Inondation de Filidei et Joël Pommerat. Et puis, je ne vais pas citer toutes les productions, mais ceux qui ont vu Le Postillon, Long Jumeau, Manon, Fortuné, en fin d'année, je crois, ont été absolument bouleversés, ravis, parfois hilars, quand ce sont des spectacles vraiment amusants, mais vraiment une très belle année, grand succès effectivement, il faut féliciter toutes les équipes pour ça.
Et justement, ces derniers spectacles comme Fortunio n'ont pas été entamés par les grèves, vous n'avez pas dû baisser le rideau, le public est venu.
Le public est venu et surtout toutes les équipes étaient là mobilisées. Je n'ai pas l'habitude, quel que soit mon champ de responsabilité, de commenter ce qui se passe ailleurs, notamment dans le domaine social, mais à l'Opéra Comique, effectivement, toutes les équipes ont été là, ont assuré toutes les représentations. Il faut les remercier, de la direction jusqu'à l'ensemble des collaborateurs. Il faut remercier aussi, je n'ai pas souvent l'occasion de le faire publiquement, tous les artistes du dialogue social au sein de cette maison et le conseil d'administration que je préside n'est pas en responsabilité du dialogue social, mais il est très vigilant et ce dialogue social est fructueux, je crois, il faut que ça continue et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles eh bien, cette maison a fonctionné jusqu'au dernier jour de sa représentation de 2019.
La Séguédille de Carmen de Bizet, chantée par Gaëlle Arquez. Un petit clin d'œil aux nouvelles productions, celles de l'année 2020 de l'Opéra Comique, que l'on va évoquer avec vous, Jean-Yves Laroutourou. Cette nouvelle année qui sera marquée, entre autres, par une nouvelle production de Carmen. Ce sera un petit peu plus tard dans l'année, au mois d'octobre. Une nouvelle production d'un ouvrage emblématique, maintes fois joué, visité, revisité. Mais c'est toujours quelque part un certain défi que de remonter Carmen, de bousculer un peu les habitudes des spectateurs.
Absolument. C'est un opéra comique, créé à l'Opéra Comique, qui a pris son envol à l'Opéra Comique. C'est un des ouvrages les plus donnés dans le monde. Quelle que soit l'année, il fait partie du trio de tête partout dans le monde. Et là, partout dans le monde, on va le donner, donc effectivement, avec la meilleure Carmen du moment. Je peux le dire, je suis pour rien dans la production et dans la distribution. Mais on va le donner non seulement à l'Opéra Comique, mais aussi à travers le monde, puisqu'il va être à Pékin dès l'automne 2020 aussi. Donc, une très belle production. Très originale, vous le verrez. C'est pas à moi de la commenter avant qu'on l'ait vue, mais très, très originale. Très belle.
Alors c'est vrai que l'Opéra Comique sait faire preuve de beaucoup d'originalité, y compris lorsqu'il présente des ouvrages emblématiques et connus. On pense à cette adaptation de Manon, revisitée par Olivier Pihan l'année dernière. Des démarches inventives qui se traduisent également dans le domaine de la création. Il y a eu cette production de L'Inondation en 2019 et cette année, il y aura le nouvel opéra de Pascal Dussapin, Macbeth, et plus proche de nous, dès vendredi. Un spectacle tout à fait original, déroutant, qui s'intitule Fausse et qui n'aura pas lieu salle Favart, mais dans un parking.
Absolument, hors les murs, au parking du Centre Pompidou, donc demain, après-demain et dimanche. Quelque chose de très original, c'est en parallèle à la rétrospective Boltanski qui a lieu à Beaubourg actuellement, Olivier Mantelli et l'Opéra Comique ont commandé à trois artistes d'excellence, donc Boltanski lui-même, Jean Calment pour les Lumières et puis le très remarquable Franck Kravitz pour la musique, une œuvre très originale dans ce parking effectivement. Excellence des concepteurs de cette œuvre, excellence aussi des musiciens. On va voir Karen Vour, on se souvient tous de sa remarquable et merveilleuse Mélisande, Sonia Vida-Atherton, un ensemble de musiciens, de cordes, de percussions, etc. Pour une œuvre qui est ni un opéra, ni un non-opéra, en quelque sorte, bien mieux qu'une simple installation musicale. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. On y vient et on peut en repartir à tout moment, si j'ose dire, parce que c'est une œuvre en quelque sorte en continu. Donc beaucoup d'émotions, une expérience sensorielle, mais bien plus que ça pour commencer l'année. Et comme vous le dites, c'est très représentatif de ce que l'Opéra Comique veut faire, c'est-à-dire être présent aujourd'hui, créer du répertoire pour demain, être créatif aussi bien sur des titres très connus que sur des titres un peu oubliés ou sur le patrimoine que l'on crée aujourd'hui. Et Fausse, c'est la bonne façon de démarrer 2020, sans aucun doute, demain, après-demain et dimanche, dans les sous-sols du Centre Pompidou.
Mais le public suit lorsqu'il s'agit de création. Le public de l'Opéra Comique est curieux, audacieux également.
Oui, il l'est depuis toujours, si j'ose dire. Ça fait, vous savez, c'est trois siècles de création, trois siècles d'expérience, trois siècles de choses qui sont déroutantes. Et notre public, très varié d'ailleurs, de plus en plus jeune, et on en est très très fiers, nous suit. Et là, vraiment, pour Fausse, est-ce que je dis le prix des places ? 18 euros et 9 euros si on a moins de 18 ans. Donc, quelle raison peut-on avoir de ne pas y aller ? C'est une magnifique expérience en début d'année et le public va être là, bien sûr.
Alors justement, la jeunesse, parlons-en, Jean-Yves Laroutourou, grâce notamment à la maîtrise populaire, ce projet éducatif, social, qui se développe de plus en plus à l'Opéra Comique, auquel vous allez donner en 2020 une ampleur supplémentaire.
Oui, de plusieurs façons. C'est un projet qui a 3 ans, qui a donc pris vraiment maintenant une certaine maturité. On l'a commencé avec nos mécènes. Les pouvoirs publics sont venus maintenant le soutenir aussi. C'est un projet, si je peux en dire un mot, qui est un projet d'inclusion vraiment. C'est-à-dire que on vise pas telle ou telle catégorie de la population. C'est vraiment un projet de mixité. On a à la fois des enfants entre 8 et 25 ans qui viennent des beaux quartiers, mais aussi qui viennent pour plus de la moitié des zones où l'échec scolaire est là, malheureusement. Donc c'est un projet à la fois de redémarrage scolaire. C'est un projet d'excellence artistique, ils sont sur scène, ils vont l'être encore plus cette année puisqu'ils vont assurer, la maîtrise populaire va assurer un vrai spectacle qui est le Voyage sur la Lune d'Offenbach. Ça va être une grande expérience. On les a déjà vus à de nombreuses reprises sur scène à l'Opéra Comique ou ailleurs, au Festival d'Avignon, pour l'entrée des époux Veil au Panthéon. Donc c'est une grande expérience et là on va essayer de franchir un cap et on a besoin de tout le monde et de l'enthousiasme participatif et du financement participatif puisqu'on a lancé avec Kiss Kiss Bank qu'une opération pour récupérer, ce qui va nous permettre de lancer la pré-maîtrise, c'est-à-dire pour les enfants de 8-9 ans. C'est un projet très enthousiasmant, il faut y venir, il y a de magnifiques contreparties. C'est une bonne façon de soutenir ce projet très emblématique, ce que fait l'Opéra Comique. De l'ouverture, de la diversité, de la mixité sociale, avec l'excellence artistique sur tous les arts de la scène.
Et on a jusqu'au 14 janvier pour participer à ce...
On a une petite semaine, même plus que quelques jours, il faut y arriver. Il nous manque encore 20 000 euros pour arriver à notre objectif. On est dans l'élan de la dernière semaine, on va y arriver, il faut que tout le monde s'y mette. Et on sera très heureux que notre public et ceux qui découvriront à cette occasion la maîtrise bien nous rejoignent dans cette expérience.
Voilà, on encourage nos auditeurs donc à aller sur le site KissKissBankBank pour soutenir la maîtrise populaire de l'opéra comique. Quelques notes de Jacques Offenbach, quelques notes du ballet des flocons de neige, du voyage dans la lune qui fera l'objet d'une production à l'Opéra Comique. Ce sera au mois de mai 2020, une production portée par les forces de la jeunesse, par la maîtrise populaire. Alors on évoquait, Jean-Yves Laroutourou, le développement du public, cette ouverture vers un très large public et qui passe également par un dispositif tout à fait original dont on a parlé il y a quelques semaines sur l'antenne de Radio Classique, dans ce journal du classique, c'est le dispositif Relax, auquel l'Opéra Comique est associé. C'est un dispositif qui consiste à préparer le public pour permettre à des personnes handicapées qui, en général, ont des manifestations peut-être un peu plus bruyantes, en tout cas différentes des nôtres, de leur plaisir au spectacle, pour leur permettre justement de profiter du spectacle vivant et d'être acceptées par le public plus habituel.
Oui, effectivement, c'est une démarche qui a commencé au cinéma et nous sommes pionniers, nous, sur le spectacle vivant. Donc, Olivier Mantéi, c'est une partie importante de son projet, cette ouverture, comme je disais, la diversité, la capacité pour tout le monde d'accéder à l'émotion de nos spectacles. Nous avons eu 3 années déjà où nous avons essayé, parce que c'est une bonne idée de permettre à tout le monde, y compris à ceux qui ont des comportements du fait de leur handicap, quel que soit leur âge, des comportements qui peuvent gêner, qui peuvent étonner un peu, d'être là dans le spectacle. C'est une bonne idée, mais c'est surtout une réalisation compliquée, il faut l'admettre. Ça veut dire que les personnels de l'Opéra Comique se sont formés, les artistes sont prévenus, le public lui-même doit accepter d'avoir quelqu'un d'un peu bruyant à côté de lui. Donc c'est pas seulement une bonne idée, c'est une très belle réalisation. L'année 2020, on va avoir 4 dimanches relax sur des productions majeures comme Carmen, comme Hippolyte Arici. Et puis Olivier Mantéi, le directeur de l'Opéra Comique, a pris l'engagement qu'à partir de 2021, toutes les matinées du dimanche à l'Opéra Comique, il y aura la possibilité de venir, quel que soit son handicap, de venir dans ses dimanches relax et de bénéficier tout à fait d'un climat très bienveillant qui se joue à tout moment dans l'accueil, dans la façon dont ça se passe dans la salle, pour que tout le monde puisse accéder à ces spectacles. Et même quand on est submergé par l'émotion et que du fait de son handicap, on se met un peu à crier ou à bouger, eh bien on est là et c'est très important pour nous. On est une maison qui est ouverte à tous les publics et y compris à tous les publics qui ont un handicap. Il faut que personne se sente empêché de venir voir nos spectacles.
Et justement, comment le décririez-vous, le public de l'Opéra Comique? Comment a-t-il évolué ces dernières années suite aux différentes actions que vous développez pour rendre justement la salle Favart encore plus accessible à tous?
C'est un public d'aujourd'hui. Et pour nous, c'est important que ce soit vraiment un public d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'essayons pas de nous adresser à tous, comme le dit Olivier Monteilli, mais que chacun puisse venir. Donc on a à la fois des amoureux du baroque, et qui ont été là depuis Attis, Médée, et qui sont là aussi pour Hercule amoureux, qui viendront pour Hippolyte Arici, mais qui en profitent aussi pour découvrir Donnerstag aus Licht, il y a 2 ans, de Stockhausen, l'inondation, Macbeth demain, pour venir voir de l'Offenbach aussi, bien sûr, des jeunes qui viennent parce qu'il y a du buzz, parce qu'ils sentent qu'on est vraiment dans le spectacle d'aujourd'hui. Et c'est vrai pour tous les spectacles. Et c'est là où l'ouverture vaut aussi d'un point de vue esthétique. Cette maison n'est pas la maison d'une esthétique, d'une caste. Dans tous les spectacles, que ce soit des spectacles d'opéra du XVIIe siècle, on va redonner pour les 350 ans le bourgeois gentilhomme, ou que ce soit des spectacles qui sont créés aujourd'hui, le meilleur de l'esthétique, des plasticiens, des musiciens sont là convoqués, sans exclusif, pour faire un spectacle d'aujourd'hui, pour un public d'aujourd'hui, et donc créer le public de demain. Les jeunes que nous accueillons de plus en plus nombreux, c'est le public de demain. Les œuvres que Olivier Monteilli monte, comme l'inondation, comme Macbeth, comme Faust, c'est le répertoire de demain. Voilà.
Voilà, et puis le répertoire de demain, cela commence vendredi, non pas Salle Favard, même si c'est une production de l'Opéra
Comique. Au Centre
Comice.
Pompidou, dans le parking.
Voilà, donc une déambulation pour découvrir ce spectacle Faust, fruit de la collaboration entre Christian Boltanski, Jean Calment et Franck Kravzik. Merci beaucoup Jean-Yves Laroutourou d'être passé nous voir et on vous souhaite une très belle année 2020.
Merci infiniment. Très bonne année à vous aussi.
C'est le chœur Accentus que l'on écoute ici dans une page de Franck Kravzik, un arrangement pour chœur d'un mouvement de la 3e sonate de Chopin. Le chœur Accentus qui participera avec la soprano Karen Wursch et la violoncelliste Sonia Widerhatterton à ce spectacle Fausse sur des musiques de Franck Kravzik, à découvrir de vendredi à dimanche dans le parking du Centre Pompidou. 6 représentations, 6 déambulations de 50 minutes. Vous trouverez tous les détails et les horaires sur le site de l'Opéra Comique.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Très belle année.
Mais oui, meilleurs vœux musicaux, personnels, professionnels, enfin tout.
Voilà, pour vous aussi et tous nos auditeurs, bien entendu. Alors ce premier voyage de l'année, nous le ferons à Beaune, la ville natale de Beethoven, que l'on célébrera justement.
Absolument, il est difficile, il est même impossible d'ignorer que 2020 est une année Beethoven. Et que l'on soit ou non féru de commémoration, comment, oui, ne ignorer que l'on célèbre donc les 250 ans de la naissance de ce géant, de ce titan de la musique et, comme vous l'avez dit, à Bonn. Nous aurons l'occasion, et vous aussi, je le sais bien, d'y revenir sans doute d'ici le 16 décembre, le jour exact anniversaire de sa naissance, il y a donc 250 ans. Mais on commence par Bonn, sa ville natale donc, et les hommages que lui rend cette ville, et ça semblait tout naturel donc de commencer par là. Bonn qu'il quittera, encouragé par Haydn, qui a repéré dans le jeune Beethoven un musicien d'exception, qu'il quittera donc en 1792, il a 22 ans et il n'y reviendra plus jamais. La maison natale de Beethoven, c'est un des lieux historiques, culturels, touristiques, un des incontournables, comme on dit, de la ville. Et depuis le 16 décembre dernier, elle propose un tout nouveau parcours donc dans cette maison natale où l'on peut admirer et s'émouvoir devant des partitions, des instruments, des archives, dont notamment ses carnets intimes qu'il gardait toujours avec lui et qui lui permettaient, à la fin de sa vie, quand il était devenu totalement sourd, de communiquer avec les autres puisqu'il ne pouvait plus communiquer que par écrit. En parallèle au parcours de cette maison natale, il y a dans la Bundeskunsthalle, un des musées de la ville, une grande exposition qui vient elle aussi de commencer et qui se tient jusqu'au 26 avril sous un titre ambitieux mais qui correspond tout à fait à une figure telle que Beethoven. Beethoven, monde, citoyen, musique. Trois mots qui résument assez bien la figure de Beethoven. 250 pièces à peu près, une par an, on pourrait dire, qui nous sépare de sa naissance, pour brosser un portrait musical évidemment, mais aussi humain, vivant, politique de Ludwig van Beethoven, devenu une icône, une figure d'artiste libre, irréductible, très admiré, mais aussi un peu craint parce que solitaire, héritier du classicisme, on parlait de Haydn qui a été son professeur, mais aussi grand initiateur du romantisme et de toute la modernité. Beethoven, il naît dans l'Europe des monarchies en 1770, il forge sa conscience humaniste sur fond de révolution française, il admire Bonaparte mais il condamne Napoléon, et il finit sa vie alors que c'est l'Europe des restaurations. Donc, on succédait une foule de mouvements politiques de l'Europe en même temps que son style se construisait et devenait de plus en plus autonome. Son enfance, élevée par un père musicien brutal et alcoolique, ses succès, son installation à Vienne, ses mécènes, il en a eu beaucoup, ses amours malheureux, sa surdité donc, sa virtuosité au piano, et puis bien sûr l'immense postérité, tout ceci est décrypté au fil de cette exposition qui est à la fois très pédagogique et très éclairante, et toute l'année la ville de Bonn organisera d'autres manifestations musicales, des débats, des promenades pour les enfants, toute une série donc de propositions pour vraiment fêter une année complète l'enfant de la ville. Et même, il y a une tentative via l'intelligence artificielle de prolonger les quelques esquisses qu'il avait laissées de sa 10e symphonie. Donc Beethoven après Beethoven, voilà, tout un programme qui commence en ce mois de janvier pour les 12 mois qui viennent. We'll be right back.
Quelques notes du final de la troisième symphonie, l'héroïque de Beethoven, avec ici l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Andris Nelsons. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Bonn.
Je vous en prie.
Et à la semaine prochaine
pour
une autre escapade. Merci à Laetitia Montanari qui réalisait cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Jérôme Coréas qui viendra nous parler d'un ouvrage auquel il redonne vie, qui traite de l'esclavage, intitulé Le Code Noir, un ouvrage français baroque à redécouvrir. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.